Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceaux, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Cette semaine, 8 nouveautés sur les écrans Manceaux. Les miens, She Said, Inu O, Saint-Omer, Bones and All, Le Menu, Aucun ours, et ça ne sera pas notre dernier Noël. Voilà pour la programmation musicale. Je suis allé chercher des titres un peu dans chacun des films à l'affiche cette semaine, et on commence par un titre que l'on entend dans Saint-Omer, c'est Nina Simone, Little Girl Blue, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Nina Simone, Little Girl Blue, il y a une longue intro musicale.
Thank you.
Little Girl Blue, Nina Simone. J'ai appris cette semaine que... Bon, je savais que Nina Simone, c'était pas son vrai nom, mais d'où venait le nom de Simone? Et c'est un rapport avec le cinéma. Elle a choisi ce pseudonyme en référence à Simone Signoret, qu'elle a vu dans Casque d'Or.
Oui, oui.
Voilà.
Oh.
Et oui. Les miens. Alors, c'est le premier film cette semaine dont nous allons parler. Les miens, on peut voir le film au cinéaste et au Pâté Quinconce. Au cinéaste, il a 2 séances par jour au Pâté Quinconce. Le nombre de séances habituelles pour un film qui sort au Pâté Quinconce. Alors, c'est un film de Roche Dizem. Roche Dizem, il est surtout connu comme acteur. On l'a vu tout récemment dans Enquête sur un scandale d'État, dans La fille au bracelet, dans Roubaix une lumière. Je crois bien que ça lui avait valu d'ailleurs un César. Mais c'est aussi un réalisateur. Il a commencé par le court-métrage, comme beaucoup de gens. Et puis en 2006, Mauvaise foi avec Cécile de France, et puis lui-même, bien entendu. 2010, Omar m'a tué. Alors ça, c'est la fameuse affaire Omar Radad, avec déjà Samy Bouajila et Denis Podalydès. 2013, un petit film qui était passé complètement inaperçu et que j'avais adoré, moi, c'était Bodybuilder, avec Vincent Rottier, Marina Foïs et Roche Dizem. 2016, Chocolat avec Omar Sy, James Thierry. Et 2018, Persona non grata avec Raphaël Personnaz et Nicolas Duvauchel. Le film Les Miens dure 1h22. Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille, à l'opposé de son frère Riyad, présentateur télé à la grande notoriété, qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour, Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d'un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs 4 vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Riyad. Le journal du dimanche, Stéphanie Belpech. On est bluffé par la mise en scène qui multiplie les plans-séquences organiques, par les personnages attachants qui nous ressemblent tant, par l'écriture et la direction d'acteurs millimétrés, mais qui donnent l'illusion du naturel, de la spontanéité, voire de l'improvisation. Caroline Vier dans le journal de 20 minutes. Les miens, émeut par la tendresse que Roche Dizem fait ressentir pour ses proches. Jérôme Garcin dans l'Obs. Un film aussi sur la parole recouvrée. Devant et derrière la caméra, Roche Dizem, qui ne s'épargne pas, dit aux siens qu'il les aime et nous, on aime ça. Éric Nohoff, Le Figaro, un film qui sonne juste, servi par une belle distribution. Adrien Gombeau, Les Miens, dans Les Échos. Les Miens, le 6e long métrage de réalisateur Roche Dizem, est le parfait miroir de ses choix de comédien et sa plus grande réussite derrière la caméra. Centré sur la famille, le film est une pulsation qui va crescendo, slalomant de la comédie au drame pour s'achever en dansant. Gilles Kerdreux dans West France parle d'un film très positif. Thierry Chaise dans Première, il est le pour, il y a un contre dans Première. Thierry Chaise Zem est tout sauf un donneur de leçons. Il invite simplement au partage. Son 6e long est le plus ambitieux, le plus emballant. On fait volontiers nôtre les siens. Mais comme je vous dis qu'il y avait un contre, on en parle tout de suite, c'est Thomas Borez. Roche Dizem se retrouve en bout de course, sans trop de ressources, bien obligé d'effacer la note. Dans un geste rassembleur et fédérateur, on y croit moyen. Jean-Baptiste Morin exécute le scénario du 6e film réalisé par Roche Dizem, a été coécrit avec Mai Wen, qui joue un rôle aussi assez valorisant dans le film. Et l'on y reconnaît son goût pour les scènes de groupe et les règlements de comptes familiaux, sans qu'on sache bien à quoi il sert, sinon à faire avancer un récit un peu nébuleux, par à-coups assez forcé. Et Julien Barcinon, Télé 7 jours, a trop longtemps esquivé son sujet que l'on devine l'inspiration autobiographique. L'acteur et cinéaste nous laisse avec une impression d'inachevé. Eh bien, ça n'est pas mon cas. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce film de Roche Dizem, qui est une chronique familiale et une étude de caractère centrée sur la personnalité de 2 frères, Moussa et Riyad. Alors, lorsque le premier, Moussa, donc, à la suite d'une chute accidentelle, est victime d'un traumatisme crânien, Il change de caractère. Lui qui était jusqu'alors doux et toujours soucieux des autres tombe dans une forme d'aphasie où il n'a plus goût à rien et il devient sans filtre, disant donc leurs 4 vérités à ses enfants, à ses frères et ses sœurs qui en prennent tous pour leur grade, sauf Ziad, le frère cadet.
Pourtant,
j'ai dit Ziad.
Oui,
Riyad.
Voilà, Riyad, oui.
Riyad. Le pourtant hyper égocentrique frère cadet avec qui il conserve des liens fraternels, on va dire normaux. Donc dans une veine hyper naturaliste, un film sans doute à relent autobiographique, tour à tour drôle et touchant, remarquablement interprété par des acteurs en tête desquels Samy Bouajila, Roche Dizem et Mai Wen, qui sont pris sur le vif, donnant l'impression d'improviser sous l'œil d'une caméra qui se trouverait là presque par hasard pour recueillir les émotions vécues par cette famille. Le film est coécrit par Mai Wen et on retrouve d'ailleurs le ton et la façon de mettre en scène en long plan séquence de Mai Wen dans un film pourtant qui est un film de Roche d'Izem, un film très personnel, qui soit dit en passant, montre qu'on peut faire un film sur une famille d'origine marocaine, parfaitement intégrée, sans parler de religion ou de sentir une quelconque rancœur à l'égard de la France. C'est juste un film pour parler d'une famille comme les autres et des relations intimes, personnelles et solidaires entre ses membres.
Ah, c'est ce que je dis aussi, un film très personnel de Roche d'Izem, avec comme personnage central, non pas lui, bien qu'il soit acteur, mais plutôt Moussa, autour duquel gravite toute sa famille, à commencer par le personnage de Roche d'Izem donc, et celui aussi de Maïwenn, toujours très performante. C'est l'histoire d'une famille avec ses amours, ses déchirements aussi, voire ses règlements de compte. Quand un film est bon, on y croit, on ne pense plus que c'est une fiction, et là c'est bien le cas.
Exactement.
Il y a bien souvent, hélas, des problèmes au sein d'une famille, dans la vie, et c'est pourquoi ce film est très attachant. Ben, j'ai adoré.
Bon, voilà, donc on est tous les deux d'accord. Oui. On a beaucoup aimé Les Miens, et Les Miens, on peut le voir au Pâté Quinconce et au Cinéaste. She Said, là, c'est au Pâté Quinconce et au Méga CGR. On peut le voir dans les deux, en version française et en version originale. C'est un film de Maria Schrader. Maria Schrader, c'est une actrice, réalisatrice, scénariste, née en 1965. Premier long métrage en 2007, Vie amoureuse, semble-t-il, pas sorti sous nos écrans. 2015, Stefan Zweig, Adieu l'Europe avec Barbara Sukhova. Et 2021, I'm Your Man. C'est un film d'une durée de 2h10, 2h09 précisément. Deux journalistes de New York Times, Megan Touhey et Jodie Cantor, ont de concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. À l'origine du mouvement hashtag MeToo, leur investigation a brisé des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et le monde de la culture. Camille Nevers dans Libération, sobre et minutieux, le beau film choral de Maria Schrader retrace l'enquête du New York Times sur les accusations de viol et d'agression sexuelle d'Harvey Weinstein, puisque c'est comme ça qu'on doit dire, on ne doit pas dire Weinstein, hein, c'est Weinstein en version originale. Troublante expérience d'hyper-réalisme, sans quête de sensationnel, il donne à voir la solitude des victimes qui sortent du silence juste avant la tempête MeToo. Caroline Vier dans 20 minutes, ce film instructif, bâti comme un thriller et porté par Carey Mulligan et Zoé Kazan, est passionnant. Clémentine Goldzahl dans Elle, She Said, est un film pour l'histoire, mais d'une brûlante actualité. Stéphanie Belpech, Le Journal du Dimanche, un réquisitoire implacable, édifiant et nécessaire. Le Parisien, adapté du récit que les deux femmes ont tiré de leur longue investigation, She Said, nous plonge dans cette enquête, cette quête, décrivant les coulisses du travail journalistique rigoureux d'un grand quotidien. Il retrace en outre une lutte de femmes pour les femmes, axée sur une parole si longtemps contrainte et depuis libérée. Passionnant, conclut la rédaction du Parisien. Olivier de Bruyne dans Les Échos, en consacrant un film à cette affaire sordide, 5 ans seulement après les faits, le cinéma américain qui, face à Weinstein, fut si longtemps aveugle, voire complice, prouve une nouvelle fois sa formidable capacité de recyclage et d'évocation de l'histoire récente. She Said, la réalisation de Maria Schrader, honore le journalisme, le vrai, avec une mise en scène efficace et sobriété. Constance Jamais, Le Figaro, le film libère autant de colère sourde que de lumière en un double uppercut mémorable. Nicolas Chéran dans L'Os, pas du grand cinéma, mais un honorable film dossier. Frédéric Foubert dans Première, ce qui se raconte ici est bien sûr passionnant, mais cette reconstitution très appliquée, très scolaire, ne provoque pas le moindre vertige, sauf quand Ashley Judd apparaît dans son propre rôle pour rejouer son témoignage. À côté, Spotlight, c'est Zodiac. Bon, c'est très sévère ces deux dernières critiques, parce que She Said, moi je trouve que c'est un film passionnant. Alors c'est un film qui est tout autant sur l'affaire Weinstein, et peut-être même, je dis plus sur les méthodes mises en œuvre par les journalistes d'investigation et les processus rigoureux auxquels ils doivent se soumettre afin d'être juridiquement inattaquables avant de sortir leur article. Ça, c'est vraiment absolument passionnant, cette démarche journalistique, vraiment. Bon, donc ici, il est question de deux journalistes de New York Times qui vont sortir l'affaire de harcèlement sexuel, moral, de viol, dont le célèbre producteur de cinéma Harvey Weinstein, patron du fameux studio Miramax, s'était rendu coupable pendant des années auprès d'actrices et de collaboratrices de sa maison de production, sans jamais être inquiété, puisqu'il utilisait tous les moyens à sa disposition pour étouffer les cas qui auraient pu aller devant les tribunaux. Et tous ces moyens, c'est pression, transactions financières, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, sauf le meurtre quand même. Bon. Le film suit donc le travail d'enquêtrice de ces deux femmes, leur difficulté à recueillir des témoignages de femmes et d'hommes aussi d'ailleurs, vivant dans la crainte et traumatisés par leur expérience, Le film décrit aussi leur sens de la persuasion, leur obstination, mais aussi le soutien sans faille de leur hiérarchie au sein du journal le New York Times. C'est passionnant de bout en bout. C'est dans le droit film de films célèbres de ce genre, comme Les Hommes du Président, Spotlight et quelques autres, bien entendu. C'est un film qui montre aussi la puissance de la presse aux États-Unis comme quatrième pouvoir. C'est remarquablement interprété par Carey Mulligan, que j'adore de toute façon déjà, et Zoe Kagan, que j'ai découvert. C'est filmé sans temps mort, au plus près des faits, avec une grande efficacité, malgré la sobriété de l'ensemble. C'est le film qui raconte comment est née la vague MeToo qui a ébranlé le monde, modifié les rapports hommes-femmes dans les grandes entreprises et plus généralement dans la société occidentale tout entière. C'est un grand film sur un journalisme noble.
She said, elle a dit en français. On devrait plutôt dire à bon goût, elles ont dit, car elles sont plusieurs à parler. Ces femmes victimes de harcèlement sexuel et parfois même de viol. Ce film est une longue enquête sur ces femmes victimes, menée de main de maître par deux journalistes femmes du New York Times. Cette enquête, moi aussi, m'a fait penser au film « Les hommes du président ». Rappelons que c'était Robert Redford et Dustin Hoffman. Oui. C'est assez loin déjà, dans 1976 hein, quand même pour ce film. Cette fois, deux journalistes femmes, donc, merveilleusement interprétées par Zoé Kazan et Carey Mulligan. Cette dernière est anglaise d'ailleurs, il faut le dire. Bien que peu long, 2h10, j'ai suivi avec intérêt ces deux femmes en quête de vérité et j'ai beaucoup aimé. Post-scriptum, ce film est tiré d'une histoire vraie, tout comme l'affaire du Watergate.
Exactement, voilà, donc deux films, Les miens et Chissette, que nous avons beaucoup aimés.
Et tu l'as dit, quatrième pouvoir pour la presse aux États-Unis.
Hein. Exactement. Inuo, ou Inuo, je ne sais pas comment on doit dire, c'est du japonais, je ne parle pas japonais. Masaaki Yuasa, c'est le réalisateur. Masaaki Yuasa, c'est un réalisateur scénariste né en 65, japonais donc. Beaucoup de dessins animés à son actif, certains inédits, Mind Game en 2004, Genius Party plus tard. Sinon, est sorti déjà sur les écrans, les grands écrans français en 2017, The Night is Short, Walk on Girl. 2017 également, Liu et l'île aux sirènes. Et 2019, Ride Your Wave. Il y a aussi des courts-métrages, des épisodes de séries à son actif, ce Masaaki Yuasa. Alors, Inuo, créature maudite, est née avec une particularité physique, l'obligeant à cacher chaque parcelle de son corps. Sa vie de paria solitaire change lorsqu'il rencontre Tomona, un joueur de biwa aveugle. Ensemble, ils créent un duo singulier qui fascine les foules et deviennent les premières célébrités du Japon. Pour découvrir la vérité sur la malédiction d'Inuo, ils devront continuer à chanter et danser au risque de déranger l'ordre établi. Je ne l'ai pas précisé, c'est un film d'animation musicale. Et la presse a eu l'air d'apprécier, ma foi, puisque Nicolas Jeunex, dans Positif, parle d'un époustouflant opéra rock sensoriel. Déborah Lechner, ou Lechner, je ne sais pas, écran large. Inuo est une proposition radicale, détonnante, une déflagration sonore et visuelle, ainsi qu'une vraie expérience de cinéma. Alors, je n'ai pas précisé, le film est proposé par le Colisée. Je pense qu'il doit y avoir de la VO, je vérifierai tout à l'heure, mais je pense qu'il y a de la VO pour ce film-là. Sinon, Xavier Le Herpeur dans l'Obs, scène de concert dantesque, couleur explosant comme un arc-en-ciel sous acide. C'est une œuvre musicale folle, exubérante, démesurée, cuir et fluide. On ne reverra pas cela avant longtemps. Eh ben, Mathieu Macheret, Le Monde, ce maelstrom narratif irracontable et surtout prétexte à déchaîner le génie graphique de Masaaki Yuasa, affolant les lignes et les perspectives par son dynamisme échevelé, propice aux déformations optiques et aux métamorphoses. Marie Cloque dans Libération, dans un tourbillon jouissif sur fond de légende médiévale, Masaaki Yuasa, livre une comédie musicale géniale et déchaînée, malgré un final un peu trop chargé niveau sonore. Thierry Chasse dans West France, la musique transcende le conte et le transforme en opéra rock tonique et poétique, sublimé par la beauté de l'animation. Première, Estelle Aubin, c'est poétique, historique, d'aucuns diraient nostalgique, sensible, étonnant, dynamique, et l'on en passe. Vertigineux, conclut Estelle Aubin. Stéphanie Belpèche, Journal du Dimanche, en dépit des qualités plastiques et évidentes de cette comédie musicale singulière et radicale, le récit s'avère hermétique, décousu, confus et déroutant, impossible d'éprouver de l'empathie pour les personnages, aussi extravagants soient-ils. Ça dure 1h38. C'est un film d'animation japonais, je ne suis pas très fan des films d'animation, donc je ne suis pas allé le voir.
Un peu manga, mais... non?
Non, pas vraiment. Je ne sais pas du tout. Et c'est au Colisée, voilà, au Colisée. Allez, hop, petite pause musicale. Un titre qu'on entend dans le film Bones and All. You Made It Feel Like Home. C'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
I think you always had a feeling like you knew it all along. I kept believing I was never meant to be. Just a minute, we made it feel like home. For a minute, just for a minute, we made it feel like home. And I will haunt these hills forever. Without a reason to believe. When I can feel you beating inside. Just a minute, we made it feel like home.
C'est extrait de la bande originale du film Bones and All. Ça s'appelle You Make It Feel Like Home. Les gens qui chantent sont Trent Reznor et Atticus Ross, qui sont les compositeurs de la BO du film. Voilà, ça s'appelle donc You Made It Feel Like Home.
On est dans le calme aujourd'hui. Hein.
Oui, absolument, ça va changer juste après. Saint-Omer, c'est un film proposé par les cinéastes, un film d'Alice Diop. Alice Diop, jusqu'à maintenant, elle a fait surtout des film documentaire, c'est son premier long métrage. Elle a à son actif des courts métrages, des films inédits, et puis en 2016, La Permanence. Et alors, si je parle de La Permanence, c'est parce que mardi soir, au cinéaste, on pourra voir ce film à 20h30, La Permanence, dans le cadre du festival Aux Écrans du Réel. C'est un documentaire donc d'Alice Diop. Et sinon, Alice Diop avait réalisé aussi, et c'est sorti en 2020, je pense que les cinéastes l'avaient proposé, un autre documentaire qui s'appelait Nous. Voilà, alors son premier film de fiction, Saint-Omer, dure 2h02. Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Colli à la cour d'assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d'avoir tué sa fille de 15 mois en l'abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l'accusé, l'écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement. Sophie Joubert dans L'Humanité parle d'un film puissant et dérangeant. Céline Roudel dans La Croix, un film puissant, elle aussi, et viscéral, qui hante longtemps le spectateur et nous fait nous interroger individuellement et collectivement sur cette figure de Médée moderne. Le Parisien, un film passionnant, à la fois lent et dense. Saint-Omer, qui a remporté le Lion d'Argent à la Mostra de Venise, est un grand film parce qu'il raconte, mais aussi par la puissance de son incarnation. La rédaction du Point déclare « Foncez voir Saint-Omer, grand film ». Elisabeth Franck-Dumas dans Libération, faire un film extraordinaire sur la maternité en partant d'un infanticide. Faire un film sec, intègre, intelligent à partir d'un épouvantable fait divers. Voilà le petit miracle de Saint-Omer, premier long-métrage de fiction de la cinéaste Alice Diop. Thierry Chaise en Ouest-France, l'une des plus grandes compositions de 2022, déclare-t-il à ce propos. Renan Crowe, cinématiseur, le film sidère par sa puissance, sa grâce et son mystère. Sophie Grassin-Alops, plus qu'émue, on en sort terrassé par la façon magistrale dont Diop a su tenter de saisir l'insaisissable et de remettre en cause les idées reçues. Fabrice Leclerc dans Paris Match, Saint-Omer est un long métrage âpre, éprouvant et glaçant de maîtrise. Adrien Gombeau dans Les Échos, Saint-Omer réussit le portrait d'une tueuse énigmatique, glaciale et brisée, magistralement campée par Guslaji Malanda, sans convaincre totalement. Malgré plusieurs moments de bravoure et d'audace, le premier long-métrage d'Alice Diop laisse un léger sentiment d'incomplétude. Je ne connaissais pas le mot incomplétude. Étienne Sorin, Le Figaro, Alice Diop s'inspire d'un fait divers et raconte le procès qui a suivi, une histoire sans chair. Eh oui. Voilà, Saint-Omer, donc, c'est proposé par les cinéastes, avec, ma foi, 2 séances par jour. Rama est une jeune femme, prof de fac, écrivaine, qui, pour se documenter pour son prochain livre, se rend à Saint-Omer, assister au procès d'une jeune femme d'origine sénégalaise, comme elle d'ailleurs, accusée d'un infanticide. Elle a volontairement noyé sa petite fille de 15 mois sur une plage du nord de la France. Le film est essentiellement focalisé sur le procès et sur la personnalité de cette femme, Laurence Colly, dont l'existence a des résonances dans la vie de celle de Rama, et pas seulement pour des questions d'origine ethnique, parce que tous les deux, je répète, toutes les deux sont d'origine antillaise. C'est inspiré
d'une histoire...
J'ai dit quoi ?
Antillaise.
Ah non, sénégalaise, absolument,
oui.
Sénégalaise. Inspiré d'une histoire authentique, un film avec des partis pris de mise en scène forts, beaucoup de longs plans fixes, des plans séquences, donc beaucoup de silence également. Un film qui essaie de sonder les mystères de l'âme humaine, qui essaie de fournir des explications aux gestes insensés de cette femme à travers son témoignage et ceux des gens qui l'ont côtoyée, mais aussi à travers le déterminisme culturel, ethnique de cette femme. C'est un film de fiction, certes, mais c'est proche d'un documentaire. On sent qu'il est très personnel pour la réalisatrice Alice Diop, dont Rama est quasiment le double de fiction. C'est un film intense au cours duquel la mécanique du procès permet d'évoquer les points de vue différents sur la personnalité de l'accusé. Alors, est-elle mythomane, manipulatrice ou atteinte de folie ? Chacun se fera son opinion. C'est un film de procès, sobre, qui revisite aussi le mythe antique de Médée, puisque c'est le sujet du livre de Rama. Un film qui aurait mérité peut-être d'être un peu plus resserré, ou en tout cas, les scènes personnelles concernant la vie de Rama sont sans doute trop étirées, mais c'est évidemment un choix de mise en scène volontaire de la part d'Alice Diop. Je serais peut-être un petit peu moins dithyrambique que la plupart des journalistes. Pourquoi ? Parce que les journalistes sont souvent prompts à fustiger les films à procès, et qui, ici, sont totalement indulgents. En général, ils n'aiment pas les films à procès parce qu'ils trouvent que c'est trop statique, etc. Et puis là, ils ne le disent pas. Donc, leur attitude me rappelle un petit peu une des plus belles tirades du film Illusion perdue sur les critiques qui peuvent dire tout et son contraire, suivant leur humeur. Voilà. Tout ceci posé, le film reste néanmoins intéressant pour qui aime l'évocation de faits divers, pour qui se pose des questions sur le déroulement habituel d'un procès, qui cherche à trouver des explications rationnelles quand il n'y en a peut-être justement pas. Saint-Omer, donc, c'est un film intéressant à voir. 2h10, mais c'est supportable, sans problème. Et c'est au cinéaste... Bones and All, ben là, ça n'est pas au cinéaste, c'est au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Et dans les deux cas, on peut voir le film en VF et en VO. C'est un film de Luca Guadagnino. Luca Guadagnino, réalisateur, scénariste, producteur italien né en 71. Son premier long-métrage est inédit en France en 99, c'était Les Protagonistes avec Tilda Swinton. 2005, Mélisa P. avec Maria Valverde. 2009, Amore avec Tilda Swinton. 2015, A Bigger Splash, avec déjà Tilda Swinton, encore Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Dakota Johnson. 2018, Call Me By Your Name, avec Timothée Chalamet. Et 2018, Suspiria, avec Tilda Swinton et Dakota Johnson. Vous voyez que Luca Guadagnino est souvent fidèle aux mêmes acteurs, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, par exemple. Bones and All, 2h10, et interdit moins de 16 ans. On comprend pourquoi, à l'évocation du sujet. Marraine part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui va l'embarquer dans un road trip enflammé sur les routes de l'Amérique profonde. Leur amour naissant sera-t-il suffisamment fort pour résister à leurs démons, leur passé et le regard d'une société qu'ils considèrent comme des monstres? Alors je vous dis tout de suite, ils sont des monstres parce qu'ils sont cannibales, anthropophages, c'est comme vous.
Oui.
La revue de presse très très partagée. Emmanuel Spalacenta, cinématiseur, impossible d'oublier certaines images de Bones and All qui vous collent à la peau. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, une fable entre horreur et romance, dans la lignée de Trouble Every Day, où Claire Donny explorait déjà la notion de cannibalisme avec la même singularité et la même radicalité. Marcos Uzal dans Cahiers du cinéma, Guadagnino filme cette histoire très sanglante avec une paradoxale douceur, sans que l'action ne prenne le dessus sur la grâce de ses jeunes acteurs. Suivant sa route référencée, le film n'est cependant pas d'une grande nouveauté et il rate inexplicablement la scène qui aurait dû être son acmé. Nicolas Chalère dans L'Obs, comme souvent avec ce cinéaste, c'est trop long et on ne saisit pas tout à fait où il va en venir. Déroutante, l'errance aux beautés sombres piste la mélancolie des cannibales. Le Monde, bluette très lisse, presque touchante dans ses effluves de romantisme noir, le film croit pourtant s'encanailler en débitant scolairement ses références, son Amérique rouillée gisant sous une lumière de fin d'après-midi. Et ça se gâte vraiment avec Le Parisien. À l'arrivée de ce trop long road movie qui néglige totalement les paysages qu'il traverse, on se demande si le cinéaste n'a pas voulu un peu trop filer la métaphore sur les parias et les marginaux pour n'aboutir qu'à une bluette cannibale qui tourne en rond. Cédric Page, un road movie monotone, dit-il dans West France. Frédéric Foubert dans Première. Guadagnino régurgite une imagerie gothico-white trash piochée chez Jarmusch. Mais à force de pauses et de clichés, celle-ci vire à l'imagerie dévitalisée, artificielle, faussement cool, confirmant la nature très creuse de ce cinéma. Vous voyez, hein, c'est très 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 partagé. Alors, Bones and All, c'est un film d'horreur, mais il n'en respecte absolument pas les codes habituels. C'est un road movie, et puis c'est aussi une histoire d'amour adolescente. C'est l'histoire de Maren, une jeune fille cannibale, anthropophage, comme vous voulez, qui essaie de fuir la malédiction qui pèse sur elle. Dans sa fuite, pour essayer de retrouver sa mère qu'elle n'a jamais connue, elle découvre qu'elle n'est pas seule, dans ce cas, à être cannibale. D'abord auprès d'un étrange vieil indien qui va l'initier à sa condition, mais surtout elle rencontre Lee, un garçon comme elle, à peine plus âgé qu'elle. Lors de leur odyssée à travers l'Amérique, ils tombent fous amoureux, sans pouvoir toujours échapper au destin qui pèse sur eux. Alors dommage que le film soit beaucoup trop long, hein. 2h10, c'est beaucoup trop long, on pouvait couper sans dommage plusieurs scènes, ça n'aurait rien changé au film. Bon, c'est comme ça, plusieurs séquences pouvaient être coupées, plusieurs rencontres pouvaient être coupées, et on pouvait recentrer le propos. Mais tel qu'il est, voilà un film quand même assez étrange, empreint d'un romantisme fou, avec cette histoire de marginaux, vulnérables. La photographie est superbe, les deux jeunes acteurs sont remarquables, hein. L'actrice, la jeune fille, c'est Taylor Russell, le garçon, c'est Timothée Chalamet. Très trash, pas du tout le Timothée Chalamet qu'on a l'habitude de voir. Le film ne séduira en aucun cas les fans de films d'horreur habituels, parce que ça sort vraiment trop des sentiers battus du film de genre. Il est plutôt destiné à ceux qui aiment les films d'auteur, mais là, le problème, c'est que je crains qu'il ne soit rebuté par le pitch. Les films d'horreur, les gens qui aiment les films d'auteur, en général, ils ne vont pas les voir. Alors, tel qu'il est, c'est une œuvre singulière, étrange, mais, je répète, hélas, beaucoup trop longue. Voilà, Bones and All, méga CGR, Pathé Quinconce, VF et VO dans les deux cinémas. Allez, à la fin du film Les Miens, on entend cette chanson, c'est la chanson de la réconciliation, en quelque sorte, dans le film, ça s'appelle Begging You, c'est très connu, The Four Seasons, c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Later. Begging You, The Four Seasons, une chanson qu'on entend à la fin du film Les Miens. Voilà. Le menu, c'est un long métrage proposé par le méga CGR et le Pathé Quinconce. Il y a au moins une séance en VO dans chacun de ces deux cinémas. C'est un film interdit moins de 12 ans. C'est réalisé par Mark Mylod. Je ne sais pas si on dit Mylod ou Mylod. Producteur, réalisateur britannique. Il a à son actif de très nombreux épisodes de séries télé dans, comme Entourage, United States of Tara, Games of Thrones, etc. Il avait réalisé en 2002 un film assez drôle, Ali G, avec Sacha Baron Cohen. 2005, The Big White, directement en VOD avec Robin Williams et Holly Hunter. Et puis en 2011, Sex List avec Anna Faris et Chris Evans. Le film Le Menu, donc, 1h48. Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie d'autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales. Emmanuel Spalacenta dans Cinématiseur, un casting 5 étoiles. Oui, alors il y a Ralph Fiennes, Anna Taylor-Joy et Nicolas Hoult. Un casting 5 étoiles au service d'une satire féroce, de l'embourgeoisement, de la gastronomie, mais pas que. Stéphanie Belpèche, le journal du dimanche, étonnant thriller dans l'esprit d'Agatha Christie, qui se transforme sans griller gare en jeu de massacre délicieusement retors et sadique, orchestré par un cuisinier sociopathe à l'humeur festive. Sophia Grassin dans L'Obs, Mark Mylod joue la satire noire et mordante pour cuire à petit feu privilégié, capitaliste et pompeux. Très pertinent sur les vilainies et les ridicules de ses personnages, il peine davantage à maintenir jusqu'à son terme l'intérêt de son jeu de massacre horrifique. Le Parisien, lorsque le spectateur comprend que les aigreurs de ce chef jusqu'au boutiste n'auront aucune limite et que l'issue fatale est inévitable, l'intérêt pour le film diminue, d'autant que le réalisateur donne prodigieusement dans la surenchère sanglante. On se dit alors qu'il en fait beaucoup trop. Laurent Gian dans Télé 7 jours, réjouissant au début, le film peine ensuite à se renouveler et à préserver sa crédibilité malgré un casting étoilé. Frédéric Foubert dans Première, inopérant sur le plan du commentaire social comme sur celui du suspense macabre, un menu indigeste. Et oui, j'ai vu ce menu que l'on peut voir au Méga CGR et au Pathé Quinconce. C'est l'histoire d'un groupe de personnes de tous âges, mais plus particulièrement un jeune couple. Ils se retrouvent réunis sur une île isolée pour partager le repas gastronomique concocté par un grand chef pour lequel ils ont payé chacun une petite fortune. Alors si au début cela se passe comme attendu avec ce cérémonial prétentieux dans ce genre de restaurant avec ses mets sophistiqués et tout ce rituel de service, cela va vite déraper car le chef, à la fois tyrannique et orgueilleux, s'avère un vrai psychopathe et les convives vont en faire les frais au fur et à mesure du défilé des plats. Donc la tension va monter crescendo et les situations vont succéder qui vont de l'étrange à l'horreur pure. Voilà, c'est un film d'horreur donc. Mais ça, on en se rend compte qu'au bout d'une demi-heure à peu près. Un film horreur à la fois original et inabouti. Le film sort des sentiers battus, des sentiers ordinaires du genre, faisant avec un certain humour noir la satire acerbe de cette haute gastronomie, de cette gastronomie où la frime est omniprésente avec ses plats hyper prétentieux, la satire de ses chefs superstars, de ses brigades de cuisiniers, de secondes, d'apprentis, de gâte-sauce, qui sont dévoués corps et âme à leur chef, de ses clients haut de gamme, tous bouffis d'orgueil, de morgue, de prétention. Un film avec un côté radical, parfaitement assumé, mais pas toujours clair dans ses intentions. Tous les personnages, sauf un, sont détestables, chacun pour une raison particulière. Ralph Fiennes, qui joue le cuisinier, est parfait, un cuisinier star, glaçant. Et Anya Taylor-Joy tire bien sa carte du jeu. C'est le seul personnage aimable et pas dupe de tout ce chichi. Globalement, on reconnaîtra l'originalité du sujet, mais on reste quand même un petit peu sur sa fin. C'est un comble pour un film sur la gastronomie. Le menu, voilà, c'est Oméga CGR au pâté quinconce, VF et VO. Aucun ours, cette fois-ci, c'est uniquement au cinéaste. C'est un film de Jafar Panahi, réalisateur, scénariste, producteur iranien. Il est né en 60, il a à son actif de très nombreux courts et moyens-métrages, et puis des longs-métrages. En 85, Le Ballon Blanc, 97, Le Miroir, 2000, Le Cercle, 2003, Sang et Or, 2006, Hors-jeu, 2011, Ceci n'est pas un film, co-réalisé, qui était un documentaire, 2015, Taxi Téhéran, 2018, Trois visages, et 2020, Celle qui chante, un documentaire, lui aussi co-réalisé. Aucun ours, ça dure 1h47, je répète, et c'est proposé par le cinéma Les Cinéastes, exclusivement aux cinéastes, avec deux séances par jour. Dans un village iranien proche de la frontière turque, un metteur en scène est témoin d'une histoire d'amour, tandis qu'il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ? La revue de presse est élogieuse. C'est West France qui déclare que c'est un bijou de cinéma, ce film. François Delbecq, un film glaçant et prémonitoire. L'Obs, François Forestier, tout se mélange et se complète dans un fascinant puzzle où il y a du pamphlet, de la pensée poétique et de la tragédie. Céline Roudin dans La Croix, avec une verve et un humour toujours intact, malgré la noirceur de son propos. Jafar Panahi nous parle de ses conditions de travail difficiles, de la question douloureuse de l'exil et du soupçon généralisé dans un pays encore marqué par le poids des traditions. Alexis Campion, le journal du dimanche, s'emparant d'une situation qui tient à la fois du rocambolesque et du réel tragique. Jafar Panahi signe un grand film incisif sur la situation intenable dans son pays. Le Parisien, récompensé par le prix spécial du jury au Festival de Venise, cette œuvre résonne de manière particulièrement forte aujourd'hui, alors que l'Iran est secoué par des manifestations et que Jafar Panahi y est incarcéré depuis plus de 4 mois. Olivier de Bruyne des Échos, 7 ans après l'admirable Taxi de Téhéran, Jafar Panahi redonne de ses nouvelles sur le grand écran dans Aucun ours. Avec ce nouvel autoportrait indirect, le cinéaste est plus que jamais viscéralement attaché à son pays natal, entraîne le spectateur dans un jeu de piste troublant qui honore celles et ceux qui sont prêts à tout pour vivre libre, quitte à en mourir. Une fiction à la fois malicieuse et émouvante. Louis Guichard dans Télérama, avant d'être emprisonné pour propagande contre le régime, le cinéaste iranien a tourné ce poignant film à suspense sur l'oppression des femmes et des artistes. L'Humanité, Michael Mélinard. Aucun ours a décroché un prix spécial du jury à Venise, comme pour saluer le geste et la persévérance du cinéaste. Cette récompense hors cadre souligne aussi les limites de cette œuvre, car Aucun ours est un ton en dessous de sa production habituelle, signe de la difficulté de créer les mains liées. Nous ne sommes pas allés voir Aucun ours. Non. Je ne suis pas un gros fan des films de Jafar Panahi et du cinéma iranien en général. Je fais partie des traumatisés d'Abbas Kiarostami. Voilà. Bon, bref, c'est un film qui est proposé par les cinéastes. Dernier film d'affiche cette semaine, ça s'appelle « Ce ne sera pas notre dernier Noël ». C'est un film de Juan Manuel Cotelo. C'est proposé par le cinéma Le Méga CGR. Et je ne peux pas dire qu'ils soient enthousiastes à l'idée de proposer ce film-là. C'est une sortie technique, comme on dit, hein, puisque si vous regardez les sorties sur Paris, il n'y a qu'une seule salle à Paris, et sur Paris périphérie, 3 salles. Et c'est un film qui n'a pas été vu par les critiques, puisque la revue de presse, eh bien, il n'y en a pas. Donc, je vous dis juste le synopsis. Un couple au bord de la rupture part en vacances avec ses 3 enfants dans leur maison de famille. Ils ont décidé de divorcer après Noël, sans prévenir leurs enfants, pour ne pas gâcher la fête. Mais ces derniers découvrent leur projet et décident d'enfermer leurs parents tant qu'ils ne sont pas réconciliés. Voilà. Tengamos la fiesta en paz, c'est le titre original. Ce ne sera pas notre dernier Noël. 1h41, Méga CGR. Il est possible que si vous alliez au Méga CGR, on vous accueille un accueil délirant parce que vous êtes peut-être le seul spectateur de la journée à aller voir le film. Ça, c'est pas impossible. Voilà, ben c'est le dernier film à l'affiche cette semaine. Et donc, comme il nous reste un petit peu de temps, un titre que l'on entend dans Bones and All, ah, du bon rock qui tâche. Le groupe Kiss, voilà. Lick It Up sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. We'll be right back. Kiss, Lick It Up. Je ne savais pas qu'en passant Kiss, Lick It Up, j'allais faire plaisir au journaliste de Radio Alpa, Robin, qui est un grand fan de Kiss, puisqu'il les a vus dans leur tournée d'adieu cet été à Bercy. Et donc, je ne savais pas que je lui ferais plaisir. Eh bien, tant mieux, je suis bien content. Lick It Up, Kiss, on entend ce titre dans le film Bones and All. Les films à l'affiche la semaine prochaine, on commence par les avant-premières. Il y a des avant-premières pour un film qui est mélange animation et prise de vue réelle. Enzo le Croco, c'est dimanche, les avant-premières, à 10h45 au Colisée et à 13h30 au Méga CGR. Le Torrent, l'avant-première, sera lundi, je crois, lundi à Omega CGR, je vérifie, lundi Méga CGR pour ce film à 19h45, oui, lundi 19h45 pour Le Torrent, un film d'Anne Leny avec José Garcia et André Dussolier. Les autres films à l'affiche la semaine prochaine, on aura Christophe Honoré, Le Lycéen, ça sera au cinéaste à coup sûr, Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, toujours barge les films de Quentin Dupieux. Annie Colère de Blandine Lenoir, c'est un film français sur les années 74, le combat pour l'IVG. Le Torrent, donc Enzo le Croco, et puis Violent Night, un film américain. Sinon, on devrait avoir aussi au cinéaste Cow, un documentaire sur les vaches. S'il n'y avait pas trop de films, je serais allé voir, parce que j'adore les vaches, mais bon, il y a quand même beaucoup de films à voir, et oui. Cow passera à la trappe, si on peut dire. Et puis, il y aura certainement aussi Days de Tsai Ming Liang, mais là, je n'irai pas, parce que...
Tsai Ming Liang, oui, c'est un très, chinois
Ouais, taïwanais.
Taïwanais,
c'est
ouais.
Très, 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 très lent, en général, les films. Et là, comme il fait 2h06, je crois que oui. Ça sera pareil. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique, et on vous recommande très chaudement...
Alors, impossible de faire un choix cette semaine, donc je vous recommande chaudement les deux, les miens et She Said.
Voilà, moi, les miens et She Said, je vous recommande, mais je vous recommande aussi Saint-Omer. Et puis, je n'ai pas détesté Bones and All, même si c'est beaucoup trop long. Voilà, donc il y a de quoi faire ce week-end. Et nous, nous retrouvons normalement sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Clap.
Au revoir.
Au revoir.